Jacques, ancien grand maître du Grand Orient de France.
Merci. Je voudrais poser deux ou trois questions qui sont des observations. Je crois que, en ce qui me concerne, la religion ressort du fort intérieur. On croit ou on ne croit pas. Lorsque on crée une structure de dialogue interreligieux, on consacre un principe d'exclusion. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on sait actuellement que plus de 50%, selon mes derniers renseignements, 60% de la population française est indifférente à la chose religieuse, est agnostique ou athée. Ça veut dire que on va exclure 60% de la population qui finalement ne s'intéresse pas à la religion, tout simplement pour valoriser un 40%. Et c'est normal. C'est normal parce que si on m'invitait à cette structure de dialogue interreligieux, je commencerais par dire Dieu n'existe pas. Ce qui veut dire que le 40% devrait partir. Il ne partira pas. Il ne partira pas parce que c'est un gagne-pain. Donc si vous voulez, je crois que exclure de cette manière-là est tout à fait antidémocratique. La seconde chose que je voudrais dire, c'est au sujet de la construction d'édifices religieux. Alors, j'ai eu l'occasion une fois d'en parler avec un collaborateur du Premier ministre pour lui dire que les édifices religieux avant 1905 ont été construits par l'argent du peuple. Ah, il m'a dit non, il y avait les fondations, la noblesse. Mais d'où vient l'argent des fondations et de la noblesse ? Il vient toujours du peuple. Or, construire aujourd'hui des édifices religieux avec l'argent du peuple, ça veut dire qu'on va forcer 60% des indifférents agnostiques et athées à construire des bâtiments qui ne représentent rien pour lui et qui, en définitive, à la limite, combat. Donc, si vous voulez, vous avez là un thème de réflexion qui me semble important. Et puis la troisième chose, très rapidement, je souhaiterais qu'on arrête de parler de communauté. Communauté homosexuelle, communauté islamique, communauté... Il n'y a pas de communauté. Il y a 65 millions, 66 millions de citoyens français qui devraient tous être unis. Or, si on parle de communauté, on les découpe en tranches, et à ce moment-là, évidemment, tous les jeux sont possibles. J'ai dit.
Alors, sur les constructions avec l'argent du peuple, je pense que c'est une vraie question. Et d'ailleurs, moi, ça me gêne personnellement que mes impôts servent à financer les ministres des cultes en Alsace-Moselle, par exemple. Sur le principe, alors on nous dit c'est comme en Allemagne. C'est totalement faux. En Allemagne, les contribuables choisissent de verser un impôt au culte qu'ils souhaitent. Et donc, c'est au choix de la personne. Et c'est un système beaucoup plus sain, à mon sens. Bon. Le statut de l'Alsace-Moselle, on a essayé d'y toucher à plusieurs reprises. Je crois qu'il y a eu des grosses manifestations dans les années 30 et que du coup, le législateur, maintenant, regarde ça de manière très, très distanciée. Sachez quand même qu'il y a l'Alsace-Moselle avec le statut des cultes reconnus qui perdure plus du droit local qui s'applique. Il y a la Guyane, où l'Église catholique est religion d'État et les ministres des cultes sont financés par le conseil départemental qui avait d'ailleurs l'été dernier refusé de verser les indemnités. Il y a des décrets-lois de 1939 qui administrent tout un tas de départements d'outre-mer avec un statut spécifique pour les religions qui sont financées par les impôts des Français. Il y a Mayotte aussi où persiste quand même la justice cadiale en partie sur de la médiation, mais sur aussi la question du financement. Donc, si vous voulez, notre principe à nous, de la France métropolitaine, quand on enlève l'Alsace et la Moselle, il n'est pas partagé sur toute la République française. Et déjà, le principe d'unité de la République, on pourra en dire quelque chose d'assez long. Donc, moi, ça me gêne sur l'Alsace Moselle. Et donc, je pense quand même que, si vous voulez, cette question, elle se pose socialement. Si vous n'avez pas de mosquée pour les musulmans, en termes de liberté religieuse, ça pose un problème. Et à la fois, si c'est le Qatar qui finance les mosquées, moi, ça ne me va pas non plus. C'est-à-dire que quand un pays tiers finance une mosquée, il a droit de regard sur ce qui se passe dans la mosquée. Et c'est comme ça que viennent les discours intégristes. C'est comme ça que le wahhabisme se développe. C'est parce que l'Arabie saoudite, elle finance tout un tas de choses. Et donc, si vous voulez, se pose quand même, au bout du bout, la question de « il y a un besoin ». Et socialement, si on veut que ça fonctionne socialement, il faut quand même qu'il y ait des lieux de culte. Ça ne peut pas être le contribuable, ça ne peut pas être les pays tiers. Donc c'est pour ça que la proposition de Nathalie Coscure-Morizet, qui était une taxe sur le halal, hein, et je pense qu'au niveau du culte israélite, il y a une taxe sur le cachère qui en partie alimente les consistoires. Je pense que c'est une solution qui peut tenir la route. Voilà, c'est un bon équilibre. C'est un bon équilibre. Sur la notion de communauté, donc je reviens du Canada, comme je l'ai dit, là-bas ils mettent communauté à toutes les sauces. Et la communauté pour eux, c'est un ensemble de gens, c'est la proximité en fait. Ils confondent pas les identités et des communautés de croyances, parce que chez eux, il y a une grande diversité d'origine, religieuse moindre, puisque c'est quand même 90% c'est la fin du catholicisme au Québec, hein, ils sont très très sécularisés. Et par contre, la vraie différence, c'est entre anglophones et francophones, puisque le Québec est une région à majorité francophone, à minorité anglophone, et le Canada, c'est l'inverse. Donc vous avez des communautés francophones un peu partout, et la vraie ligne de clivage, c'est sur ces questions-là, sur les questions de langage avec des droits spécifiques. Et donc ils confondent pas les identités et les communautés. Et c'est vrai qu'on a, quand on parle en tant qu'élu, on a tendance à utiliser beaucoup le terme « communauté ». Moi, j'essaye de le bannir le plus souvent possible, mais je dois dire que quand même, malgré tout, ça, forcément, on est dans un environnement où ce terme est très utilisé. Mais personnellement, je ne pense pas qu'il y a de communauté musulmane, je ne pense pas qu'il y a de communauté homosexuelle, je ne pense pas qu'il y a de communauté X ou Y. On peut être d'ailleurs musulman, homosexuel, voilà. Donc, si vous voulez, les communautés, elles sont pas homogènes. On a la chance d'être dans un pays où malgré tout il y a un vivre ensemble et un creuset culturel commun qui fonctionne quand même à peu près bien, hormis à certains endroits où on a relégué des poches de pauvreté et où effectivement se développe une vision assez identitaire et communautaire de la société. Mais je pense que effectivement vous avez raison, la notion de communauté est à complètement bannir parce qu'elle alimente le fantasme sur l'unité que serait l'islam ou les musulmans ou d'autres communautés. Sur la notion d'exclusion par bord de partage, on n'exclut pas les non-croyants, les agnostiques et les athées, puisque vous allez avoir lundi soir sur scène un agnostique, Alain Juppé, et un athée, en l'occurrence moi, et c'est moi-même qui vais animer le débat, ce qui est quand même, je dois dire, vu mon parcours, quelque chose que je n'attendais pas un jour dans ma vie, d'animer une réunion interreligieuse avec des ministres des cultes. C'est pas une exclusion, dans la mesure où vous pouvez tout à fait y aller, et vous pouvez tout à fait participer, prendre la parole et poser des questions, et donc c'est tout à fait ouvert. Et on travaille avec les cultes comme on travaille avec d'autres, parce que même si on considère qu'il n'y a pas de communauté, on a des réunions sur des questions identitaires qui sont différentes, sur les questions LGBT, sur les questions égalité femmes-hommes, sur les questions, toutes les questions qui se posent à nous en termes d'identité. Et il faut dire qu'en France aujourd'hui, les identités sont au travail. Et pour répondre à votre notion d'exclusion, je dirais que, pour refaire le parallèle avec le Canada, eux, ils développent la notion d'inclusion sociale. Et l'inclusion sociale, c'est l'effort de la majorité pour intégrer les minorités et les différentes identités culturelles. Et je pense que c'est quelque chose de très important en termes d'intégration. C'est-à-dire qu'il faut être conscient quand même que la République aveugle aux citoyens, quelle que soit son origine, sa religion, son âge, son sexe, son intention sexuelle, c'est un beau principe que concrètement, ça, sur la cohésion sociale, ça montre ses limites. Et la République aveugle, elle a quand même produit des circulaires qui incitent les maires à faire des carrés musulmans, qui incitent à adapter la, les repas aux enfants issus d'immigration, en contravention avec la loi d'ailleurs, sont des circulaires qui contreviennent, celle sur les cimetières, elle contrevient à la loi 1883 sur la laïcisation des cimetières. Mais pourquoi on l'a fait? Parce que sinon, c'était socialement très compliqué. Ça voulait dire qu'il fallait que les familles rapatrient les corps dans les pays d'origine, ce qui coûte excessivement cher. Pour les funérailles, c'est très compliqué. Et on renvoyait finalement les gens à leur origine, là où on veut une France intégratrice. Donc, je pense que par rapport aux grands principes que je partage totalement, il faut parfois avoir des négociations avec la réalité.
Notons au passage que le Québec est dans le passé et dans l'avenir du Bordelais. Christophe, quelques mots ?
Non, pour dire que pour le Grand Orient de France, c'est ce que je disais au début, la position est claire. Il faut supprimer les statuts dérogatoires, soit l'Alsace-Moselle, mais qui posent des problèmes pour le droit local, plus que par ce qui est hérité, enfin pour le droit local lié à certains avantages locaux, mais ce qui est lié au culte, à la punition du blasphème, donc le droit allemand, tout cela doit être abrogé, de même que les ordonnances de Charles X ou de Mendel, par exemple. Donc là, le Grand Orient de France a une position claire, abrogation totale et uniformisation, la République est indivisible, y compris juridiquement. Concernant le discours communautarisant, c'est ce que disait aussi, c'est l'injonction contradictoire en termes psychiatriques, enfin antipsychiatriques pour le coup. C'est vous êtes des citoyens français d'abord, mais structurez-vous quand même en communauté. Mais cela tient aussi à la fois une philosophie de société où l'on fige les gens dans leur identité, et d'autre part dans une politique du gouvernement à gauche, qui à un moment a voulu investir justement les communautés victimisées, donc victimes de discrimination. Et donc, en oubliant les classes populaires, au passage, il y a eu un investissement de ces politiques antidiscriminatoires, tout à fait louables, hein, qu'il fallait mener, mais du coup, sont restés ces éléments de langage des politiques et des médias aussi, de manière non critique, qui est au fond ce qu'on appelle une prophétie autoréalisatrice, c'est-à-dire qu'à force de parler effectivement de communauté, on finit par intérioriser qu'on appartient à une communauté, et finalement on crée de toutes pièces la communauté. Et donc ça, c'est un problème majeur. Et donc il faut, en effet, il faut le rappeler, il faut faire attention aux mots que l'on utilise, car ces mots finissent par nous leurrer, nous-mêmes. Donc il y a un véritable effort de vigilance à mener dans à la fois l'appréciation de la réalité et les mots pour le dire, pour reprendre un roman.